formation, vous avez écouté. On est convaincu que ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que vous trouvez. D'abord, je veux dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur, vous n'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat à sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon, si blessante pour les autres.
Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être avec nous pour cette sixième journée de la radio sur Transistor. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir sur les réseaux sociaux. De tous les instants de la vie politique d'une nation, le débat opposant les deux finalistes de l'élection présidentielle est sans doute le moment clé, suscitant l'intérêt de tous et réunissant les familles autour de leur poste de radio ou de télévision. Pour la journée de la radio, les yeux ont des oreilles, votre émission de lecture à voix haute vous emmène sur les traces des débats les plus mythiques de notre histoire nationale avec Alice et Pierre. Nous rejouerons pour vous ces minutes intenses et tâcherons de mettre en lumière les stratégies rhétoriques et stylistiques qui se cachent au cœur de ces discours décisifs. Avant d'aborder notre premier débat, écoutons cette magnifique chanson de Barbara, écrite pour soutenir la candidature de Mitterrand.
Regarde, quelque chose a changé. L'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Regarde, sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé, c'est indéfinissable. Un homme, une rose de la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, le suivent de par deux, le cœur en amoureux. Écoute ces fanfares et musiques, tintamarre et magique, féerique. Regarde, moins chagrin, moins voûté, tous ils semblent danser, leur vie recommencer. Regarde, suffit de le voir, oui, avant qu'il ne soit trop tard. Regarde, on en a tellement rêvé que sur les murs bétonnés poussent des fleurs de papier. Et l'homme, une rose à la main, étoile à son destin, continue son chemin. Parler, de s'aimer, de se toucher et de tout recommencer.
Le 28 avril 1988, Jacques Chirac et François Mitterrand se retrouvent face à face au second tour, dans un débat qui deviendra bien vite historique. Il fait suite à toute une période de cohabitation. Jacques Chirac, président du RPR, est en effet le premier ministre de François Mitterrand, membre du PS depuis 1986. Le débat est assez houleux. Le contexte est celui d'une montée du chômage et de son corollaire, la pauvreté, ainsi que de l'insécurité et de l'immigration, des thèmes qui nous sont assez familiers. De même, la division de la droite entre le RPR de Jacques Chirac et l'UDF de Raymond Barre profite au FN, qui grimpe dans les sondages. Cette question est bien entendu abordée par les candidats, qui rejettent tous les deux l'idéologie de ce parti, avec, il est vrai, une condamnation un peu moins ferme du côté de Jacques Chirac. Ce débat est resté dans les mémoires par l'agressivité des deux candidats, mais en particulier par le ton condescendant adopté par François Mitterrand à l'égard de Jacques Chirac, ne cessant de l'appeler « Monsieur le Premier ministre ». Mitterrand se place ainsi comme l'homme de l'expérience et comme le chef d'État affirmé, tandis qu'il renvoie Jacques Chirac à son statut d'inférieur. Mitterrand cherche sans conteste à énerver son adversaire, puisque au début du débat, Jacques Chirac a fait la remarque suivante « Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. » Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. François Mitterrand lui répond avec une grande ironie, mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Enfin, désigner Jacques Chirac par son titre de Premier ministre permet à Mitterrand de contrer les accusations contre son propre bilan, puisqu'il pointe du doigt l'implication de Jacques Chirac dans le gouvernement qu'il critique.
Le phénomène, le Front National, s'explique par bien des raisons, et sans doute par un malaise profond de millions de gens qui se sentent malheureux, ou angoissés ou anxieux pour des raisons multiples que nous aurons sans doute l'occasion d'analyser. Mais il me semble, il convient d'avoir une position claire, que ce qu'il faut récuser, c'est l'idéologie et le programme politique d'un parti comme celui-ci. Il ne faut pas être complaisant, et j'espère, je n'ai pas toujours eu ce sentiment, que Monsieur le Premier ministre ne sera pas complaisant. Mais il ne faut pas être complaisant, il faut récuser l'idéologie, il faut la dénoncer. Quant à ceux qui adhèrent, c'est une autre affaire. Je crois qu'il faut surtout entendre et comprendre la demande sociale qu'ils expriment. Il ne faut pas être sourd. Naturellement, si on est sourd aux problèmes fondamentaux de la vie quotidienne dans la ville, des inégalités sociales, alors on encourage ce mouvement. Je crois qu'il faut être très ferme sur les principes, très ouvert sur la demande, mais il ne faut pas faire de concessions à la démarche de ce parti.
Il n'est pas dans l'esprit de nos institutions, dans une campagne présidentielle, de faire la moindre concession à quelque parti que ce soit, et d'ailleurs à quelque idéologie que ce soit. Il faut simplement essayer de comprendre des hommes et des femmes, d'où qu'ils soient, parce que c'est développé sous votre quinquennat actif, si j'ose dire, c'est-à-dire de 81 à 85, un certain nombre de phénomènes qui ont été insupportables pour beaucoup de nos concitoyens. Cela a été vrai avec le développement du chômage, au-delà encore du niveau élevé qu'il avait atteint avant, et surtout d'un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui ont créé cette nouvelle pauvreté et de l'insécurité. C'est ainsi qu'on a vu se développer des sentiments que vous comme moi récusons par ailleurs. Vous êtes à l'origine de ces phénomènes et il nous appartient maintenant d'en tenir compte, de les intégrer.
Monsieur le Premier ministre est parti à l'assaut, c'est assez dans son tempérament. Moi, j'ai le mien et j'aime bien voir les choses telles qu'elles sont. D'abord, je tiens à dire que se sont glissées quelques petites erreurs dans l'analyse du Premier ministre. Stopper la dégradation, cela s'est produit deux fois. Bien peu, il faut le dire. Il faut connaître cette histoire du chômage, n'est-ce pas ? Lorsque vous êtes devenu Premier ministre de M. Giscard d'Estaing, il y avait déjà 400 000 chômeurs. Vous avez doublé le chiffre. Cela est passé à près de 800 000. Et puis, pendant les 5 ans de ce que vous appeliez le quinquennat actif, je souriais aussi en entendant cette expression, qu'on a monté de 700 000. La proportion était moindre, mais de toute manière, je ne renverrai la balle à personne. Nous avons tous échoué dans notre manière d'aborder le chômage, parce qu'on a mis la charrue devant les bœufs. On y viendra certainement tout à l'heure. En réalité, monsieur le Premier ministre, on ferait peut-être mieux de dire que, dans la lutte contre le chômage, il y a eu continuité. Continuité dans l'échec, que le chômage a continué de s'aggraver. Ce qui m'intéresse, moi, maintenant, c'est de savoir ce que je ferai après le 8 mai. C'est de quelle manière je pourrais, enfin, mettre un terme à cette dégradation de l'emploi, comme vous avez si bien dit tout à l'heure.
Je voudrais simplement dire un mot sur la présentation que fait M. Mitterrand du chômage. Non, M. Mitterrand, nous n'avons pas tous échoué de la même façon.
C'était pire avec vous, vous avez doublé.
Vous me permettrez de parler de l'actualité ?
Ah oui, c'est cela. Vous voulez éviter le passé lorsqu'il est lourd.
J'assume toutes mes responsabilités, M. Mitterrand.
Très bien. Voyez-vous, M. le Premier ministre, ce que vous dites là, vous l'avez répété 100 fois depuis les 4 mois que vous êtes candidat à la présidence de la République. Mais les Français ont jugé. Ils ont jugé le 24 avril, c'est-à-dire qu'il y a eu entre 19 et 20% de Français qui ont estimé que vous aviez raison, et puis les autres ont pensé que vous aviez tort.
Oui, j'aimerais, si vous le voulez bien, vous poser une autre question avant. Que ferez-vous demain, si vous êtes élus, l'un et l'autre, pour assurer l'impartialité de l'État ?
Cette impartialité de l'État va de soi. Demain, si les Français me font confiance, je puis m'engager à ce que, conformément à l'esprit qui a toujours été le mien et que j'ai notamment appliqué pendant les 2 ans où j'ai été Premier ministre, l'impartialité de l'État soit totalement garantie.
Je vous ai observé pendant 2 ans. Vous me donnez là un bien mauvais exemple, mais je ne vais pas m'engager davantage. Moi, je vous appelle, je ne fais aucune observation particulière sur votre façon de vous exprimer, vous en avez le droit. Moi, je continue à vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans et que vous l'êtes. Eh bien, en tant que Premier ministre, j'ai constaté que vous aviez, et c'est bien juste de le dire, de très réelles qualités que vous n'avez pas celles de l'impartialité ni du sens de la justice dans la conduite de l'État.
Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. La chagrine à tous les Français. Tous les Français. Je veux tout un État. Je veux tous les Français. Je veux tout un État. Je veux un État.
Le 2 mai 2007, le débat télévisé oppose Madame Ségolène Royal, députée PS, jouée par Eva, et Monsieur Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, joué par Pierre, et tous les deux sont candidats à l'élection présidentielle. Lorsqu'est abordé le sujet de l'accueil des enfants handicapés à l'école, Ségolène Royal rentre dans ce que la critique a appelé une saine colère. Toute communication politique mobilise non seulement des opinions, mais aussi des passions, et toute campagne présidentielle baigne inévitablement dans un climat passionnel. On relève donc toujours quelques moments éruptifs qui vont faire incident, d'autant plus fort qu'ils sortent du script initialement prévu. Dans la mesure où ils font science, ils s'inscrivent dans les mémoires. Dans le cas du débat Sarkozy, la figure rhétorique sous-jacente est évidemment le pathos, puisque la candidate cherche, sur un sujet sensible et douloureux, à éveiller l'indignation des spectateurs. Mais ce qui est frappant, et peut-être dérangeant dans la colère de Ségolène Royal, c'est son caractère assumé, revendiqué comme répété. La candidate se situe ici bien plus du côté du dire que du montrer. Son visage reste impassible, mais elle insiste sur sa colère de manière réflexive et l'auto-analyse en disant « Il y a des colères qui sont saines parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens ». Ségolène Royal invente ainsi la notion de saine colère, celle qui procède d'un sentiment de révolte face à la souffrance dans une axiologie positive, opposée à la notion d'énervement. À l'inverse, Sarkozy assimile colère et énervement en utilisant des variantes comme « perdre ses nerfs »,« sortir de ses gonds » ou « perdre son sang-froid ». Pour Sarkozy, cette colère serait contraire à l'éthos du bon président. Ainsi, l'enjeu du débat devient bien plus axé sur le caractère d'un bon président que sur le handicap, Sarkozy cherchant à disqualifier Ségolène Royal cherchant à prouver sa moralité par sa capacité d'indignation.
Je veux dire à toutes les familles ayant rencontré le drame du handicap que je ferai une place à chacun de leurs enfants dans les écoles, que je donnerai les moyens aux écoles pour les accueillir. La preuve de ma bonne foi sera le droit opposable et la capacité d'aller devant un tribunal pour faire valoir ses droits. Ce n'est ni ridicule ni accessoire, c'est peut-être même ce qui fait la différence entre la vieille politique et la politique moderne.
Là, on atteint le summum de l'immoralité politique. Je suis scandalisée par ce que je viens d'entendre, parce que jouer avec le handicap comme vous venez de le faire est proprement scandaleux. Pourquoi ? Lorsque j'étais ministre de l'enseignement scolaire, c'est moi qui ai créé le plan Handiscol, qui a demandé à toutes les écoles d'accueillir tous les enfants handicapés. Pour cela, j'avais créé parmi les aides éducateurs que vous avez supprimées 7000 postes d'aide éducateurs d'auxiliaires d'intégration. La façon dont vous venez de faire de l'immoralité politique par rapport à une politique qui a été détruite, à laquelle je tenais particulièrement parce que je savais à quel point cela soulageait les parents de voir leurs enfants accueillis à l'école. Vous avez cassé cette politique et aujourd'hui, vous promettez, en disant aux parents qu'ils iront devant les tribunaux, tout n'est pas possible dans la vie politique. Ce discours, cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, ce n'est pas acceptable. Je suis très en colère. Les parents et les familles...
Calmez-vous et ne me montrez pas
non,
du doigt avec cet index
pas.
Pointé.
Non, pas quand il y a des injustices.
Pour être président de la République, il faut être calme.
Il y a des colères saines, parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens. Il y a des colères que j'aurai, même quand je serai présidente de la République.
Ce sera gai.
Parce que je sais les efforts qu'on fait pour accueillir les enfants qui ne sont plus. Je ne laisserai pas l'immoralité du discours politique reprendre le dessus.
Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs.
Je ne perds pas mes nerfs. Je suis très en colère. Pas de mépris. Je suis en colère.
S'il vous plaît.
Je n'ai pas perdu mes nerfs. Il y a des colères très saines et très utiles.
Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve.
Je ne m'énerve pas.
Qu'est-ce que cela doit être quand vous êtes énervée ?
J'ai beaucoup de sang-froid. Je ne suis jamais énervée.
Vous venez de le perdre. Madame Royal ose employer le mot « immoral ». C'est un mot fort.
Oui.
Madame Royal se permet d'employer ce mot parce que j'ai dit que je souhaitais que tous les enfants ayant un handicap soient scolarisés en milieu scolaire normal. Madame Royal a qualifié mon propos de « larmes à l'œil », sous-entendant par là que la sincérité n'était que de son côté et que, De mon côté, il ne devait y avoir que du mensonge. Ce n'est pas une façon de respecter son concurrent. Je ne me serais jamais permis de parler de vous comme cela, madame.
Parce que moi, je ne mens pas et je ne prétends pas faire ce que j'ai détruit avant.
Madame, je ne pense pas que vous élevez la dignité du débat politique.
Si, c'est très digne la question du handicap.
Si je n'avais pas moi-même, par conviction, parlé de la scolarisation des enfants handicapés, cela faisait une heure et demie que nous débattions et n'en avait pas parlé. J'ai le droit de parler du handicap, ce n'est pas votre monopole. J'ai le droit d'être sincère dans mon engagement et d'être bouleversé par la situation d'enfants qui aimeraient être scolarisés. Je ne mets pas en cause votre sincérité, madame. Ne mettez pas en cause ma moralité.
C'est votre action que je mets en cause.
Ainsi, la dignité du débat politique sera préservée. Mais au moins, on aura vu que vous vous mettez en colère bien facilement. Vous sortez de vos gonds. Le président de la République a des responsabilités lourdes, très lourdes.
Au départ, un homme, une rose à la main. Elle cabache au placard, la Bastille, la pluie qui vient. Au départ, la guillotine au panier. Il aurait dit quelle histoire, cinquième semaine de congé. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis la rigueur, et puis les mots qui blessent, les tensions. Moi c'est moi et lui c'est lui, et la cohabitation. Au départ, c'est toujours le mois de mai. Écharpe rouge et chapeau noir, la lettre à tous les Français. Au départ, désaccord à Matignon. RMI, Michel Rocard, les affiches Génération. Au départ, tu sais. Sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis au bord du canal, un premier mai sans raison. Nos amours se tirent une balle et la cohabitation.
C'était un mercredi, le 2 mai 2012, quand les deux candidats à la présidence se sont fait face à face dans l'entre-deux-tours. D'un côté, le président sortant, Nicolas Sarkozy, réputé pour son côté bling-bling et sa volonté d'être un président qui se voit. De l'autre, François Hollande, chef de file du PS, qui ne se voulait rien d'autre qu'un président normal, mais toutefois un président du changement. Ce débat a été particulièrement mouvementé, à base d'attaques personnelles, de sujets lourds, et surtout de l'opposition entre ces deux conceptions de la présidence. Il en restera toujours cet anaphore scandé par Hollande, répétant « Moi, président de la République », afin de marteler sa candidature et son message. C'est surtout une réponse à la position de Sarkozy, défendant avec force son bilan. Hollande se construit ainsi uniquement par opposition à Sarkozy. Et c'est dans la différence que son message porte, bien plus que dans le contenu proposé lui-même. Et il semblerait que le coup de notre actuel président n'ait pas été en vain. Qui ne connaît pas ces cinq mots « Moi, président de la République » Et alors, monsieur Hollande ? Quel président serez-vous ?
Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. moi, président de la République, j'aurai aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Je le ferai réformer de façon à ce que si des actes antérieurs à ma prise de fonction venaient à être contestés, je puisse, dans certaines conditions, me rendre à la convocation de tel ou tel magistrat ou m'expliquer devant un certain nombre d'instances. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local, parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à leurs tâches. Moi, président de la République, je ferai un acte de décentralisation parce que je pense que les collectivités locales ont besoin d'un nouveau souffle, de nouvelles compétences, de nouvelles libertés. Moi, président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats, et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation. Moi, président de la République, j'engagerai de grands débats. On a évoqué celui de l'énergie et il est légitime qu'il puisse y avoir sur ces questions de grands débats citoyens. Moi, président de la République, j'introduirai la représentation proportionnelle pour les élections législatives. Pour les élections, non pas celles de 2012, mais celles de 2017, parce que je pense qu'il est bon que l'ensemble des sensibilités politiques soient représentées. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions, mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. J'avais évoqué une présidence normale. Rien n'est normal quand on est président de la République. Puisque les conditions sont exceptionnelles, le monde traverse une crise majeure, en tout cas l'Europe. Il y a des conflits dans le monde, sur la planète. Il y a l'enjeu de l'environnement, du réchauffement climatique. Bien sûr que le président doit être à la hauteur de ces sujets, mais il doit aussi être proche du peuple, être capable de les comprendre.
Alors, merci. Il nous reste 2-3 minutes, alors on pourrait peut-être revenir sur la lecture de ces débats et dire chacun d'entre nous ce qui nous a marqué. En ce qui me concerne, c'est dans le débat désormais rebaptisé Sarkolène, ce passage d'un débat sur le handicap à un débat sur qu'est-ce qu'un bon président, sur la présidentiabilité possible pour les deux. Est-ce qu'un président peut se mettre en colère? Est-ce qu'il y a des bonnes colères? Ou est-ce que la colère n'est que finalement un énervement puéril? Voilà, j'ai beaucoup aimé ce débat. Voilà, je sais pas, on peut commencer par Pierre.
Moi, je remarque notamment dans le dernier discours que j'ai lu, celui de François Hollande, moi, président de la République, je sais pas, j'ai peut-être pas été au courant de l'actualité, mais j'attends toujours les législatives proportionnelles promises pour 2017. Voilà, on verra bien ce que ça donne, peut-être un jour, Inch'Allah. C'est peut-être pas la bonne chose à dire en ce moment. Sinon, c'est très intéressant, je trouve, cette discussion entre Mitterrand et Chirac, notamment au niveau de ce monsieur le Premier ministre, alors que Chirac appelle François Mitterrand monsieur Mitterrand. Et en revenant sur tous ces débats, notamment les deux débats où on a une vraie discussion entre les deux, on se rend compte qu'en fait, un débat, ça ne sert pas à parler de politique, ça ne sert pas à parler d'idées de fond. Ils sont juste là à se battre mesquinement, à s'envoyer des petites piques par-ci, par-là, et c'est un peu triste, et ça n'a toujours pas changé.
Oui, après, moi, j'ai quand même été assez frappée par vraiment l'évolution des débats d'un point de vue rhétorique, notamment d'un point de vue rhétorique, parce que... quand même, dans le premier, effectivement, c'est un petit peu, on s'insulte, mais faut pas trop que ça se voit. Mais il y a quand même, enfin je sais pas, mais la façon que les deux hommes ont de récuser, par exemple, cette montée du Front National, etc. Enfin, je sais que les conditions sont pas tout à fait les mêmes, mais enfin c'est pas fait du tout de la même façon aujourd'hui. Et certains, enfin excusez-moi, mais notamment Fillon, sa récusation du FN, bon, c'est pas toujours hyper évident, quoi. Donc, enfin ça m'a quand même plutôt marqué. Et évidemment, disons tout le style et toute la condescendance de Mitterrand par rapport à Jacques Chirac, mais toujours en étant relativement classe, en ne l'insultant pas directement, mais tout de même en lui lançant des piques qui touchent apparemment bien Jacques Chirac. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et merci Pierre et Alice pour vos lectures. Et maintenant, on fait place à Tous Politiques.
C'était Les yeux ont des oreilles. Dans une demi-heure, un numéro spécial de Yen Vie après Normal avec un quiz spécial ENS, suivi de l'émission Et pourquoi pas des philosophes, une émission qui vous parlera de philosophie pour terminer la journée en beauté.